avec le journal de Clara Lecoq-Rial. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le jet privé de Saad Hariri, encerclé par la police saoudienne à son arrivée à Riyad, c'était il y a 14 jours. Son garde du corps personnel raconte, non, le président, le dirigeant libanais n'est pas libre. Nous rejoindrons notre correspondant à Beyrouth dans un instant. Beyrouth, où il ne devrait pas passer avant de se rendre en France demain.
Dans ce journal, la vérité sur les chiffres des manifestations. Qui croire quand, comme hier, la police dit 8000 personnes à Paris, les syndicats 40 000, France Culture vous fait découvrir le système qui donne le bon comptage.
Vous entendrez ensuite une parole rare. La procureure du parquet national financier revient sur l'amende infligée à HSBC en échange de l'abandon d'un procès. Un procès justement aurait condamné la banque à un montant bien plus faible, dit le PNF.
Et puis il s'était attaqué à la fois à BFM et au journal Libération, arme à la main. Abdelhakim Dekar est jugé aujourd'hui à Paris. Nous reviendrons sur les faits.
Dans un quart d'heure, dans le billet politique de Frédéric Seitz, retour en arrière. Il y a un an, jour pour jour, après la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, Alain Juppé était le grand favori. Comme un autre siècle. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri sera demain à Paris, reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il est actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est de là qu'il avait, contre toute attente, annoncé sa démission, presque deux semaines maintenant. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a confirmé hier que Saad Hariri est bien libre de quitter Riyad quand il le veut. Sauf que ce n'est pas l'avis des Libanais. Omar Ouaman, vous êtes à Beyrouth pour France Culture, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous avez pu le constater Omar, pour les Libanais c'est une certitude, Saad Hariri n'est pas libre de ses mouvements et son comportement serait même dicté par ses hôtes.
Oui, cette conviction est née après la publication d'informations par plusieurs médias, dont le quotidien britannique The Independent. Tout aurait commencé le 2 novembre dernier, deux jours avant sa démission. Saad Hariri est à Beyrouth, il reçoit un coup de téléphone, il est invité à rencontrer en urgence le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qu'on appelle MBS. Il annule tous ses engagements et s'envole pour Riyad. Mais à son arrivée sur le tarmac de l'aéroport, son jet privé est encerclé par la police saoudienne, son téléphone portable confisqué, ainsi que sa montre intelligente, sa fameuse smartwatch, qu'il n'enlève jamais. Une information confirmée par son garde du corps personnel, Mohamed Diab, présent ce jour-là aux côtés d'Hariri et de retour depuis à Beyrouth. Interrogé par les autorités libanaises, sa version a nourri les accusations d'une partie de la classe politique libanaise, dont Michel Aoun, président du Liban, pour qui Saad Hariri a été enlevé et retenu contre son gré en Arabie Saoudite.
Alors en tout cas, Omar, Saad Hariri va bien quitter Riyad, hein, je le disais, il est attendu demain en France, une sorte de porte de sortie pour le dirigeant.
Oui, la France a mené d'intenses tractations pour exfiltrer Saad Hariri. L'Arabie Saoudite refusait de le laisser repartir au Liban, officiellement pour des raisons de sécurité, mais a finalement accepté un départ pour Paris après l'intervention d'Emmanuel Macron, poussé par les autorités libanaises qui menaçaient de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron a insisté sur le fait que cette exfiltration vers la France était temporaire, qu'elle ne constituait pas un exil. Saad Hariri est donc censé rentrer à Beyrouth pour confirmer sa démission, mais ici à Beyrouth, de nombreux Libanais n'y croient pas. Ils pensent que cette escale parisienne va durer.
Merci Omar Ouaman, en direct de Beyrouth pour France Culture. L'Arabie Saoudite, on vient de l'entendre, déterminée à redéployer son influence dans la région, notamment via le Liban, faisant fi des critiques. Et à l'opposé de la péninsule, tout au sud, Riyad continue dans le même temps le blocus du Yémen. Du carburant aux médicaments jusqu'à la nourriture, tout manque en ce moment et la situation s'aggrave pour les Yéménites au bord de la famine. Hier, trois agences des Nations Unies évoquaient des milliers de victimes innocentes qui risquent de mourir. Nadine Epstein a pu joindre le porte-parole de l'UNICEF à Genève. Christophe Boulierac le confirme, rien n'entre ou ne sort du Yémen.
Oui, à l'heure actuelle, l'aéroport de Sanaa est toujours fermé, donc les vols humanitaires ne peuvent pas atterrir au Yémen. Et puis les ports, notamment les ports d'Odeida et de Salif, sont fermés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aide humanitaire qui peut arriver. Le Yémen importait à peu près 85% de toutes les denrées dont il avait besoin. 20 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, dont 11 millions d'enfants. Fermer évidemment un aéroport et les ports, ça complique encore plus la situation. L'UNICEF, par exemple, a juste 3 semaines de stock de vaccins disponibles. Le carburant est disponible jusqu'à la fin du mois de novembre. Ce carburant, il est vital, hein. C'est celui qui permet d'alimenter les systèmes de distribution d'eau, les stations d'épuration, dans un pays où il y a 900 000 cas suspects de choléra, notre personnel sur place ne peut pas partir du Yémen. Et puis surtout, les docteurs, le personnel humanitaire dont la population au Yémen a tant besoin ne peuvent pas aller dans ce pays.
Alors un poste frontière aurait rouvert au sud-est du pays selon l'ONU, mais cet assouplissement reste insuffisant, rappelait hier encore le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. On l'apprend il y a quelques minutes, le parti au pouvoir au Zimbabwe dit préparer la mise à l'écart du président Robert Mugabe. Il engagera même une procédure de destitution s'il refuse de démissionner. L'armée faisait état ce matin d'arrestations dans l'entourage du président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans maintenant. Et jusque-là, il refuse toujours de renoncer à ce pouvoir. En faisant un coup d'État il y a quelques jours, les militaires avaient pour principal objectif d'empêcher l'épouse de Mugabe, Grace Mugabe, de lui succéder. L'éternelle guerre des chiffres, comme pour jauger de la réussite ou non d'une manifestation. Appel au rassemblement hier contre la politique du gouvernement libéral, dénoncent certains syndicats, CGT et FO solidaires en tête. Ils étaient donc 80 000 participants dans toute la France, selon la police. C'est deux fois plus que les quelques 37 700 comptabilisés il y a quelques mois, mais bien en dessous des 223 000 enregistrés à la rentrée. À Paris, écart de chiffres une fois encore. Là, la CGT évoque 40 000 personnes dans les rues, la police répond 8 000, pas plus. Nous a rejoint dans ce studio Frédéric Barrère, directeur de la rédaction de France Culture. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clara.
Pour y voir plus clair et se rapprocher au mieux de la vérité, Radio France et certains autres grands médias nationaux réfléchissent à un mode de comptage indépendant.
Oui, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Il nous faut un chiffre indépendant, le plus proche possible de la vérité, une information que l'on donne et que l'on assume. Aujourd'hui, on a deux chiffres, avec un écart de 1 à 5, et encore parfois l'écart est plus important. Bref, c'est totalement farfelu, si ce n'est ridicule. On est donc en train de réfléchir, de tester un système qui nous permette de donner notre propre chiffre, mais il faut un chiffre à la presse qui soit irréprochable et que notre thermomètre soit juste. Et donc, avec les grands médias nationaux, nous nous sommes rapprochés de la société Occurrence, un cabinet d'études dans le comptage du public qui travaille de manière scientifique avec des capteurs numériques, et on va entendre dans quelques instants le reportage de Lise Verbeek. On a déjà testé le système sur 3 manifestations, on travaille encore, on veut donner notre photo des manifs la plus nette possible.
Alors verdict Frédéric, qu'est-ce que ça a donné hier ?
Un écart encore. À Paris, la police compte 8 000 manifestants, la CGT 40 000 et nous 8 250, et forcément, vous comprenez bien que cela ne va pas plaire à tout le monde.
Frédéric Barrère, directeur de la rédaction de France Culture. Effectivement, pour comprendre comment ces nouveaux chiffres sont donnés, Lise Verbeek était hier auprès des salariés du cabinet, tout près du cortège parisien.
Dans un petit hôtel au 3e étage, chambre 16, c'est là que s'est installée l'équipe d'Occurrence et son président Assaël Adari. À la fenêtre, deux capteurs ont une vue plongeante sur le boulevard Voltaire.
Ces capteurs, en fait, ils créent une ligne virtuelle qui va couper un boulevard et toute personne qui va franchir cette ligne, évidemment sans le savoir, cette ligne n'est pas visible, va être comptée. Et cette méthodologie, donc, elle est éprouvée puisqu'elle est utilisée dans les aéroports, dans les musées, etc.
Alors là, on entend la manifestation qui va arriver. Là, on a un temps idéal pour ce comptage, c'est-à-dire pas trop de soleil, donc pas d'ombre, et pas de pluie, donc pas de parapluie.
Les capteurs transmettent les images en direct à 3 ordinateurs. Adrien ne quitte pas son écran des yeux pendant 1h30.
On a un compteur en bas à gauche qui nous permet, en fait, on peut le remettre à zéro, et à chaque fois qu'une personne passe, en fait, elle est comptabilisée. Donc à gauche, nous avons les entrées, à droite, les sorties.
Pour vérifier que les capteurs ne se trompent pas, ils recomptent manuellement 4 moments de la manifestation, 4 moments de 20 secondes.
22, 51, 52.
Sous les fenêtres de l'hôtel, une dernière grappe de manifestants passe. Une dizaine de minutes plus tard, le chiffre tombe, 8250 manifestants, quand la police en compte 8000 et la CGT 40 000. Assaël Adari n'en est pas à son premier comptage et souvent les chiffres qu'il obtient sont plus proches de ceux diffusés par les forces de l'ordre.
Même s'ils avaient la bonne technologie pour compter, il y a un problème d'émetteur. C'est parce qu'ils sont la préfecture, le chiffre est suspicieux. Il y a un vrai problème d'émetteur qui est, même si vous avez la vérité, mais si vous êtes qui vous êtes, à savoir vous êtes une partie engagée, eh ben, votre chiffre est suspicieux.
Le cabinet qui revendique une totale indépendance se cantonne pour le moment au comptage à Paris, mais envisage d'étendre le dispositif à d'autres villes.
Et aucune date n'est encore avancée pour une éventuelle cinquième mobilisation. Hier, dans le cortège à Paris, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, promettait de continuer, se refusant à parler de barreaux d'honneur.
Les matins de France Culture, il est 8h10, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Cette explication à présent du parquet national financier quelques jours après l'amende infligée à la banque HSBC.
Une amende de 300 millions d'euros en échange de quoi il n'y aura pas de procès pour blanchiment de fraude fiscale. Le PNF, parquet national financier donc, a mis en application la convention judiciaire d'intérêt public. Elle est prévue par la loi Sapin 2. Certaines voix, des organisations anticorruption notamment, s'étaient élevées regrettant qu'il n'y ait pas de procès. Nous avions entendu ici même le président d'Anticor avant-hier. Eh bien ce matin, au micro de Radio France, la procureure du parquet financier, Eliane Houlette, justifie sa décision.
Si les jugements qui étaient prononcés étaient plus exemplaires, peut-être que cette convention judiciaire d'intérêt public n'aurait jamais été instituée par la loi. C'est aussi cette convention, c'est aussi le constat d'une inefficacité
du système.
300 millions, c'est plus que la totalité des amendes correctionnelles qui ont été prononcées en France en 2015. En 2015, la totalité des amendes correctionnelles atteignait 227 millions d'euros. Pour une amende, nous obtenons 300 millions d'euros. Et j'ai pu lire certaines critiques en disant qu'on était très en deçà des amendes prononcées aux États-Unis. C'est faux. HSBC, pour les mêmes faits aux États-Unis, a été condamné, je crois, à 13 millions de dollars, je crois, presque. En Allemagne, pour les mêmes faits, elle a été condamnée, je crois, à 12 millions d'euros.
Donc vous pensez que si on était allé au procès, l'amende aurait été inférieure à celle que vous avez obtenue?
Elle aurait été infiniment inférieure.
Eliane Houlette, qui s'exprime habituellement très rarement, interrogée par Jacques Monin pour France Culture. Le parquet de Créteil a requis 18 mois de prison avec sursis contre Mathieu Gallet, PDG de Radio France, ainsi que 40 000 euros d'amende. Mathieu Gallet est soupçonné d'avoir favorisé certaines sociétés de conseil lorsqu'il dirigeait l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le procureur a dénoncé hier les faits artificiellement courts avec lesquels l'INA aurait conclu certains marchés publics entre 2010 et 2014. Au chapitre judiciaire, toujours un procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, celui d'Abdelhakim Dekar. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses gestes probablement. C'était il y a 4 ans, Florence Turme.
Le 15 novembre 2013, au petit matin, un homme fait irruption dans les locaux de BFM TV. Il pointe son fusil à pompe sur un rédacteur en chef, profère une menace. « La prochaine fois, je ne vous raterai pas » et s'enfuit à pied sans tirer, mais en laissant 2 cartouches à terre. Même scénario 3 jours plus tard, dans le hall du journal Libération, mais cette fois, Abdelhakim Dekar ouvre le feu à 2 reprises. César Sébastien, un assistant photographe, s'effondre, grièvement blessé, et le tireur repart en direction de la défense, où il tire à nouveau 3 coups de feu qui ne feront pas de blessés, même si 2 salariés de la Société Générale sont sûrs d'avoir été visés. Puis l'homme va prendre en otage un automobiliste à qui il ordonne de le conduire sur les Champs-Élysées. La police place les grands médias sous surveillance et lance un appel à témoins. Sur les écrans apparaissent les images du tireur captées sur des écrans de vidéosurveillance. Mais il faudra encore 2 jours avant de retrouver Abdelhakim Dekar à demi inconscient dans une voiture garée à Bois-Colombes. L'ami qui l'hébergeait vient de conduire les policiers jusqu'à lui et leur explique son intention de se suicider. Abdelhakim Dekar a d'ailleurs laissé ses dernières volontés ainsi qu'un certain nombre d'écrits assez confus où il dénonce tout à la fois un complot fasciste, l'oppression, le capitalisme et les journalistes payés, dit-il, pour faire avaler des mensonges. Mais jamais, affirmera-t-il par la suite, il n'a eu l'intention de tuer.
Abdelhakim Dekar comparaît aujourd'hui pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Comme tous les vendredis à 7h06, présentation du magazine de la rédaction qui sera diffusé ce soir à partir de 17h sur notre antenne. Et il sera consacré aujourd'hui aux migrants en provenance d'Italie qui traversent les Alpes. Raphaël Kraft a suivi leurs pas et il raconte.
Dans le village de Nevache, au milieu de la vallée de la Clarée, entre Briançon et la frontière italienne, on n'est pas là pour refaire le monde ou agir contre la politique migratoire de la France. Simplement, des gens venus de loin passent dans la montagne tout autour et l'urgence est de leur porter secours. Beaucoup arrivent en très mauvais état, pour reprendre les mots de Bernard, 82 ans, ancien officier d'active. « Alors on les retape », ajoute-t-il. Gelures, hypothermie, contusions sont légion. On compte déjà un amputé. Cette solidarité montagnarde n'est pas du goût de tous dans la vallée de la Clarée. Certains dénoncent. Qui a accueilli des exilés chez lui? Qui en a descendu en voiture à Briançon? Pas du goût non plus des forces de l'ordre présentes en nombre du col de l'échelle jusqu'à Briançon. Des barrages sont dressés. On en parle comme d'une nuisance. Surtout quand on se fait arrêter pour avoir transporté un autostoppeur à la peau noire, un enfant souvent. Là-bas, dans les Hautes-Alpes, plus de 60% des exilés sont des mineurs non accompagnés déclarés. Avec Alain, un accompagnateur de montagne à la retraite, nous en avons trouvé 4 cachés dans un bosquet du col de l'Échelle, transis de froid. À un de ces fameux barrages, la gendarmerie les a pris en charge pour les abandonner plus tard, au bord de la route, au niveau de la borne frontière, à 1h du matin du 12 novembre dernier, sans eau ni nourriture, pour leur montrer la direction de l'Italie. D'un signe du bras.
Quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne, c'est un reportage de Raphaël Kraft à découvrir, à écouter en longueur à partir de 17h ce soir sur France Culture, réalisé par Annie Bro. Il sera suivi d'un débat autour d'Aurélie Kiefer. Et quelques mots d'un monstre sacré du théâtre français. On a appris hier la mort de Robert Hirsch à l'âge de 92 ans. Il était entré à la Comédie Française dès sa sortie du conservatoire en 1948 et aura fréquenté les planches quasiment jusqu'au bout. La météo à présent de cette fin de semaine. Le temps sera aujourd'hui très nuageux sur la moitié nord. Le soleil résistera au sud et les températures vont s'échelonner entre 2 et 9 degrés au-dessus de la Loire, 4 à 13 plus au sud.